Bienvenue sur Radio Créaume. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4-5-6 décembre 2009.
Merci, nous avons des belles présentations. Nous abordons la dernière avec France Robertson. Madame Robertson travaille depuis 8 ans au regroupement des femmes autochtones du Québec. Et plus particulièrement, elle est coordonnatrice pour la promotion de la non-violence. Hein, elle est bien sûr impliquée dans les maisons d'hébergement. Elle est Innu d'origine de Mashtuyash. Et donc, va pouvoir nous donner une vision de sa communauté. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que sa présentation portera sur la violence et les femmes autochtones en aperçu de la situation.
Bonjour tout le monde, Kway. C'est un honneur d'être ici ce matin, mais dans des circonstances malheureuses, c'est sûr. Ma présentation, c'est un défi de le faire en 15 minutes. Je pense que j'ai 10 minutes, hein? J'ai-tu 15 minutes, pareil? Merci beaucoup! La dernière est non la moindre, faut pas l'épargner. Mais c'est ça, c'est difficile souvent, en 15 minutes, d'expliquer vraiment un portrait de la situation au niveau des femmes autochtones, au niveau de la violence. Moi, je viens d'une communauté de Mashtuyash, et ça fait 8 ans que je travaille à Femmes autochtones du Québec, mais ça fait 8 ans que je suis comme sensibilisée. Parce que je travaille à Femmes autochtones du Québec, parce que Femmes autochtones du Québec a dénoncé dans les années 90 par ses colloques la violence familiale. Et quand on vit dans une communauté puis qu'on vit dedans, dans le milieu de la violence, tu dis, c'est normal, c'est correct. Tu sais, tu vois ça tous les jours. Puis à partir du moment que tu prends conscience, tu dis, hey, ça n'a pas de bon sens. Le taux de cette semaine, on vient de vivre le colloque du suicide. Chez les Premières Nations, on était 700 participants à Montréal, de tout partout, de tout le Québec. Et en même temps, on vivait un suicide dans notre communauté aussi, en même temps, Mashtuyash. Donc, ça apporte beaucoup. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est pas seulement de la violence familiale, mais c'est beaucoup de contexte. Qu'est-ce qui a apporté la violence? Mais c'est aussi de vous parler aussi des femmes disparues et assassinées, les femmes autochtones qu'on entend souvent parler. Il va y avoir une commémoration à la place Émilie Gamelin. Et dans la déclaration, bon, ben, on tient compte de vraiment de porter en mémoire de ces femmes disparues et assassinées. Donc, je vais commencer.
Ah, c'est pas comme ça. Comment que je fais? Comme ça.
C'est important de savoir la population parce qu'on dit souvent, il y a tellement tant d'Autochtones au Canada. Il faut bien comprendre, on représente à peu près 1% de la population, sauf qu'à travers, bon, vous avez Métis, Inuit et Autochtones. Au Québec, il y a vraiment, bon, au Québec, il n'y a pas, les Métis sont reconnus au Canada, mais pas au Québec, il n'y a pas de nation Métis. Fait que c'est pour ça qu'on le met dans le 33% quand on parle au niveau Canada.
C'est pas comme ça.
Au Québec, il y a 11 nations réparties. C'est important de vous mettre vraiment en contexte les nations. Il y a à peu près 58 communautés lorsqu'on parle, lorsqu'on inclut les Inuits. Il y a 58 communautés réparties. Ça, c'est la carte vraiment, parce que vous connaissez la carte du Québec, est vraiment pas comme ça. Bon, ben c'est nous, c'est dans notre portrait-là avec les communautés autochtones. Et autrefois, il n'y avait pas de petits triangles comme ça avant la colonisation, puis il n'y avait pas de petits igloos qu'on voyait Inuit comme ça. C'était vraiment, nous, on était des peuples nomades, tandis que les familles iroquoiennes, comme les Mohawks et les Hurons, étaient des familles sédentaires. Les Inuits, c'était la famille circumpolaire. Bon, donc, étant famille nomade, tu avais de longs territoires où ce que tu pouvais chasser avec ta famille. Il y avait un système politique établi déjà. Il y avait déjà une croyance, une spiritualité. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, là, après. Parce qu'il y avait déjà des familles, des clans, des chefs, des mères de clans qui décidaient qui était chef. Donc, il y avait vraiment quelque chose en place, politique, spirituelle, puis vraiment des valeurs aussi qui étaient déjà là. J'ai la misère avec la flèche. OK, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que la flèche, le clavier, merci beaucoup. Ben oui. Au Québec, la population, on représente bon vraiment 1% de la population. Ça inclut, bon, Première Nation, Inuit et Métis. Parce qu'il y a beaucoup de Métis de l'Ouest qui sont installés ici, beaucoup à Montréal. Il y a 108 425 autochtones. Bon, femmes autochtones, on représente plus de 50%. Et dans nos communautés, la pyramide, tu sais, on parle beaucoup de baby-boomers au Québec, ici, là, tu sais, la personne, les populations vieillissantes, bien, nous, c'est le contraire. Il y a 50% dans nos communautés qui ont moins de 25 ans. Beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, beaucoup qui vivent sur communauté et 30% vivent hors communauté. Donc, c'est vraiment réparti vraiment à travers, bon, que ce soit Montréal, Québec ou Val-d'Or, ou Sept-Îles, ou Latuque, Trois-Rivières. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, on en voit beaucoup, à peu près 30 000 à Montréal, qui vivent sur le seuil de l'itinérance. On voit beaucoup les familles, personnes inuites aussi. Les points majeurs marquants, ça, c'est des points vraiment marquants, mais il y a plus que ça. Quand je vous parle, ce qui a marqué aussi à la colonisation, mais il y a aussi la loi sur les Indiens. C'est une des clauses, la loi C-31, un exemple. On pourrait en parler longuement de la loi sur les Indiens. C'est quasiment un cours mathématique qu'on devrait donner lorsqu'on donne des présentations. Femmes autochtones du Québec, lorsqu'elle a été créée en 1974, c'était vraiment dénoncé cette parcelle de une des articles de la loi C-31 qui, lorsqu'une femme autochtone, mariée autochtone, elle perdait ses droits. À 85, c'est sûr qu'on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné vraiment tout au complet parce que la loi sur les Indiens aujourd'hui, lorsqu'une femme est victime de viol, elle tombe enceinte, elle se retrouve enceinte, si elle écrit père reconnu, aux yeux de la loi, c'est comme si le père, peu importe s'il est autochtone ou pas, on est obligé aux yeux de la loi dire comme si c'était un homme non autochtone, c'est considéré aux yeux de la loi. Donc, c'est la seule loi au monde où ce que tu es obligé. Tu obliges la femme à mettre le nom du père. Les pensionnats autochtones, vous connaissez, vous en avez sûrement entendu parler, les excuses du premier ministre, ça a apporté beaucoup de répercussions. Je vous disais qu'autrefois, on avait un système politique, on avait des croyances. On nous a imposé un système politique, on nous a imposé une langue, on nous a imposé une croyance aussi, parce qu'on disait que la spiritualité, c'était vraiment relié, toutes les cérémonies, c'était relié, c'était satanique. Et non, c'est vraiment très, très bénéfique. Aujourd'hui, on voit les gens, bon, le spa, on voit les gens qui utilisent un spa, les saunas. C'était vraiment bénéfique pour les peuples autochtones. Et les pensionnats, ça a apporté beaucoup de répercussions. Puis même encore aujourd'hui, dans nos communautés, on en parle de plus en plus. Parce qu'il y a les commémorations, bon, au niveau les jeunes, les enfants qui sont allés au pensionnat. Moi, ma mère est allée pendant 4 ans. Machetouillage, vous savez que c'est au lac Saint-Jean, et il se rendait à Fort Chimo, c'est dans le nord de la baie James, c'est 1h30 en avion. Pourquoi très loin comme ça? Peut-être pour être pas près d'une communauté, peut-être par une nouvelle langue, vraiment isoler les enfants. Quand tu as 6, 7, 8 ans et tu dois plus parler ta langue maternelle, t'es obligé de parler la langue française ou anglaise. Et c'est sûr qu'à travers tout ça, ben il y a certains enfants ont vécu des abus des abus sexuels aussi à travers tout ça. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des montants d'argent qui sont attribués pour ces personnes qui ont subi ça. Sauf qu'à travers tout ça, un montant d'argent ne guérit pas une douleur que tu as vécue pendant des années. Et il y a très peu de programmes qui sont en place pour venir en aide. Et ces enfants-là sont devenus des aînés. Ils reçoivent des montants d'argent, fait qu'ils font face aussi à de la violence économique de la part de leurs enfants. C'est une des conséquences aussi qu'on vit. L'adoption des enfants autochtones dans les années 60, c'est que à l'époque, c'était des façons aussi d'assimiler, d'essayer de trouver à ce que les Autochtones deviennent des Canadiens. Et ce qu'on disait aussi, les travailleurs sociaux, lorsqu'ils allaient dans les communautés, on disait on faisait signer des papiers, comme de quoi on prend soin de tes enfants. Et c'était des papiers d'adoption. Puis aujourd'hui, avec la loi de la protection jeunesse, on est en train de vivre vraiment ce qu'ont vécu les enfants au pensionnat, puis l'adoption des enfants autochtones. Fait que c'est trois cas vraiment majeurs où ça a porté envers les femmes et beaucoup aussi envers les familles autochtones. C'est le fun des statistiques, des chiffres. Hein? On demande tout le temps des chiffres, des taux. Quand on voit pas une image, quand on vit pas dans une communauté, souvent on nous demande, il y en a-tu tant que ça de violence? Il y a trois fois plus de violence dans nos communautés autochtones. C'est souvent les violences plus graves. T'sais, c'est souvent menacé au couteau. Moi, quand je vivais dans ma communauté, j'avais vu une femme qui avait reçu une bouteille de bière en plein visage. J'ai vu un homme qui était... j'avais 8 ans, j'ai vu un homme qui s'est pendu devant chez moi. Puis, quand je vous dis, il y a tellement de violence, tu dis ça n'a pas de bon sens, surtout quand on parle par des chiffres comme ça. Mais quand tu vis dedans, tu dis, c'est correct. Peut-être tu dis, regarde, je le vois tous les jours, tu dis pas, ça n'a pas de bon sens. Surtout dans un cœur d'enfant, quand tu vois des atrocités comme ça, j'ai vu à un moment donné une mère qui avait un enfant de 2 ans dans ses bras et elle recevait des coups de roche par son mari, puis des coups de roche assez sévères. Puis la mère est arrivée chez nous, puis elle a demandé à ma mère de prendre soin de l'enfant pendant qu'elle pourrait prendre... Et chez nous, on n'avait pas de maison d'hébergement, c'est sûr. Fait que c'était souvent comme ça, on confiait les enfants de peur qu'ils se retrouvent à la DPJ. Fait qu'on c'était comme un milieu, on se tenait comme ça, hein, parce qu'on avait vécu l'adoption des enfants autochtones. Et l'enfant, faisait 2 jours que la couche n'était pas changée. Elle avait les fesses très, très, très irritées. On n'était pas capable de la serrer sur nos genoux. Fait que c'était vraiment des cas comme ça. Tu dis ça pas de bon sens, mais en même temps, ben, quand tu vis ça, tu veux... Tu t'aides à ta propre façon d'être tes consoeurs. Huit femmes sur 10 est victime de violences conjugales. On parle de violences conjugales, mais c'est beaucoup aussi violence sous toutes ses formes aussi. Là. Imaginez, la plupart des femmes ont beaucoup d'enfants. Nous autres, on est, comme je dis, le taux de natalité est très, très fort. Et, hein, tu vrai? Déjà? Mon Dieu, ça va vite. Pourquoi le taux de violence? Bon, c'est sûr, les ressources sont très limitées, la pauvreté, le manque de logement. Nous autres, dans nos maisons, on a 2-3 familles, on peut être 10 personnes dans une même maison. Perte de culture et d'identité, c'est pour ça que c'est important, la mise en contexte que je vous parlais tout à l'heure, pensionnat, la loi sur les Indiens, perte des valeurs traditionnelles. Autrefois, c'était une honte d'être autochtone. On était très, très... Moi, j'étais dégueulasse, ça c'est pas pire, moi, ça paraît pas. J'étais contente. Il existe peu de services spécifiques adaptés à la culture autochtone. Comme je vous dis, nous autres au Québec, il y a 58 communautés autochtones, il y a seulement 10 maisons d'hébergement autochtones. Et la femme qui se retrouve souvent en maison d'hébergement allochtone, non autochtone, contrainte souvent, la langue, la barrière de la langue aussi, puis l'approche aussi est différente. Donc, c'est pour ça qu'on crée des projets avec des organismes non autochtones pour vraiment adapter vraiment les services aussi pour les femmes. Tout à l'heure, je vous dis, ça serait le fun de porter une attention pour les femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec. Ça, c'est des statistiques. L'Association des femmes autochtones du Canada a fait une recherche, un rapport qui a été sorti en mars dernier. Et il y a 520 cas de femmes et filles autochtones qui ont été portées disparues ou assassinées. Dans ça, dans le 24%, elles sont portées disparues, puis dans le 67%, c'est décédé par homicide. Et il y a 43 cas encore qui ne sont pas encore confirmés, puis encore il y a 4 cas morts suspects. Puis dans ces cas-là, La plupart des incidents ont eu lieu en Colombie-Britannique, comme vous savez, ça se passait dans l'Ouest. Puis souvent, on dit « Ah, c'est juste dans l'Ouest. » Mais au Québec, il y en a eu 17 cas. Fait que c'est juste au Québec, là. Fait qu'imaginez. Puis la plupart sont transgés entre 19 et 30 ans. Et la plupart de ces femmes-là ont des enfants, ont en moyenne deux enfants. Fait qu'imagine deux jeunes enfants. Donc, imaginez les enfants qui se retrouvent qui n'ont plus de mère du jour au lendemain. J'aimerais dans vos... j'espère que vous allez y aller cet après-midi, c'est à une heure, que dans vos pensées, vous ayez une pensée pour ces deux jeunes filles, Shannon Alexander de Maniwaki puis Maisie Ojik de Maniwaki. Ils ont été disparus en même temps, ça fait un an. Et vous avez sûrement entendu parler du bébé lion qui s'est disparu à Maniwaki? Oui, sûrement. Ça a fait la une du Journal de Montréal. Et en même temps, ben, on avait la disparition de nos deux jeunes filles. On n'a pas entendu parler, mais on a entendu parler du bébé lion, bébé lion boomer. Et il y en a une qui venait de Maniwaki, puis l'autre de Kitikan-Zibi. Et les dossiers ont été séparés. Donc, on n'a pas prêté attention à la fille qui venait de Kitikan-Zibi parce que sur une réserve territoire fédéral. Vous savez comment, problème de juridiction. Tiffany Morrison, qui a disparu depuis le 18 juin 2006 de Ganawagi, ça fait 3 ans. Et lorsqu'elle a été portée disparue, c'est qu'elle sortait d'un bar à La Salle. Elle a été partie en taxi avec un de ses amis. L'homme a débarqué chez lui, puis elle est restée seule avec le taxi. Puis ça fait 3 ans que la police fait enquête, la police de Ganawagi, et ils n'ont jamais été capables de retrouver la compagnie de taxi puis le chauffeur. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'après-midi, j'aimerais que vous portiez une attention à ces trois jeunes femmes-là. Et je vous remercie de votre écoute. Et je suis timée, hein? Merci. À ma patrie.